Invasion de l'espace extérieur. Autour de 1517, les colons espagnols des Caraïbes eurent vent de vagues rumeurs sur un puissant empire quelque part au centre du territoire mexicain. À peine 4 ans plus tard, la capitale aztèque n'était que ruine fumante. L'empire aztèque appartenait au passé et Hernán Cortés avait la haute main sur un immense nouvel empire espagnol au Mexique. Les Espagnols ne se donnèrent pas le temps de se féliciter ni même de reprendre leur respiration. Ils commencèrent aussitôt des opérations d'exploration et de conquête tous azimuts. Les précédents maîtres de l'Amérique centrale, Aztèques, Toltèques et Mayas, savaient à peine si l'Amérique du Sud existait et n'eurent jamais la velléité de la soumettre 2 millénaires durant. Un peu plus de 10 ans suffirent pourtant à Francisco Pizarro pour découvrir l'Empire Inca d'Amérique du Sud, puis le vaincre en 1532. Si les Aztèques et les Incas avaient montré un peu plus d'intérêt pour le monde qui les entourait, et surtout avaient su le sort que les Espagnols avaient réservé à leurs voisins, sans doute auraient-ils résisté avec plus d'ardeur et de réussite à la conquête espagnole. Dans les années séparant le premier voyage de colons vers l'Amérique, 1492, du débarquement de Cortés au Mexique, 1519, les Espagnols conquirent la majeure partie des Caraïbes, installant une chaîne de nouvelles colonies. Pour les indigènes soumis, ces colonies furent l'enfer sur terre. Ils étaient gouvernés d'une main de fer par des colons cupides et peu scrupuleux qui les asservirent et les astreignirent au travail dans les mines et dans les plantations. La plupart mouraient vite, victimes de la rudesse des conditions de travail ou de la virulence des maladies qui firent du stop jusqu'en Amérique à bord des navires des conquérants. La quasi-totalité des habitants des Caraïbes furent éliminés en l'espace de 20 ans. Pour combler le vide, les colons espagnols se mirent à importer des esclaves africains. Ce génocide se déroula à la porte même de l'Empire aztèque, mais quand Cortés débarqua sur la côte est de l'Empire, les Aztèques n'en savaient rien. L'arrivée des Espagnols fut l'équivalent d'une invasion étrangère venue de l'espace intersidéral. Les Aztèques étaient convaincus de connaître le monde entier et d'en gouverner la plus grande partie. Pour eux, il était inimaginable qu'hors de leur domaine pût exister une chose qui ressemblât aux Espagnols. Quand Cortés et ses hommes débarquèrent sur les plages ensoleillées de Veracruz, c'était la première fois que les Aztèques rencontraient une population qui leur était entièrement inconnue. Les Aztèques ne surent comment réagir. Ils eurent du mal à comprendre qui étaient ces étrangers. À la différence de tous les humains connus, ils avaient la peau blanche. Ils avaient aussi une abondante pilosité sur le visage. La chevelure de certains avait la couleur du soleil. Ils puaient affreusement. Les indigènes avaient une bien meilleure hygiène que les Espagnols. La première fois qu'ils arrivèrent au Mexique, des indigènes porteurs de brûleurs d'encens furent chargés de les accompagner dans tous leurs déplacements. Les Espagnols crurent à une marque d'honneur divin. Nous savons, par des sources indigènes, que les autochtones trouvaient insupportable l'odeur des nouveaux venus. Plus déroutante encore était la culture matérielle des étrangers, arrivés dans des bateaux géants tels que les Aztèques n'en avaient jamais imaginé, encore moins vus. Ils se déplaçaient sur le dos d'animaux immenses et terrifiants, rapides comme le vent. Ils produisaient foudre et tonnerre avec des bâtons métalliques luisants. Ils avaient de longues épées scintillantes et des armures impénétrables contre lesquelles les sabres de bois et les lances de silex des Aztèques étaient inutiles. Certains Aztèques crurent que ce devaient être des dieux. D'autres assurèrent au contraire que c'étaient des démons, les spectres de mort ou de puissants sorciers. Au lieu de concentrer toutes les forces disponibles pour éliminer les Espagnols, les Aztèques délibérèrent, traînèrent et négocièrent. Ils ne virent aucune raison de se précipiter. Somme toute, Cortés n'avait pas plus de 550 Espagnols avec lui. Que pesaient 550 hommes à côté des millions de leur empire ? Cortés ignorait lui aussi tout des Aztèques, mais ses hommes et lui avaient des avantages significatifs sur leurs adversaires. Si aucune expérience n'avait préparé les Aztèques à l'arrivée de ces étrangers bizarres aux odeurs méphitiques, les Espagnols savaient la terre pleine de royaumes humains inconnus. Il n'y avait pas meilleurs experts pour envahir les terres étrangères et affronter les situations dont ils ignoraient tout. Pour le conquérant européen moderne, comme pour l'homme de science européen moderne, la plongée dans l'inconnu était grisante. En juillet 1519, quand Cortés jeta l'ancre au large de cette côte ensoleillée, il n'eut pas la moindre hésitation. Tel un alien de science-fiction sortant de son vaisseau spatial, il déclara aux habitants frappés d'effroi « Nous sommes venus en paix. Conduisez-nous à votre chef. » Cortés se présenta en émissaire pacifique du grand roi d'Espagne et sollicita un entretien diplomatique avec le souverain aztèque Montezuma II. C'était un mensonge éhonté. Cortés était à la tête d'une expédition indépendante d'aventuriers cupides. Le roi d'Espagne n'avait jamais entendu parler ni de lui, ni des Aztèques. Cortés reçut des guides, des vivres et une assistance militaire des ennemis locaux des Aztèques. Puis il marcha sur la capitale, la grande métropole de Tenochtitlan. Les Aztèques laissèrent les étrangers marcher jusqu'à la capitale, puis conduisirent respectueusement leur chef auprès de l'empereur Montezuma. Au beau milieu de l'entretien, Cortés fit un signe. Munis de leurs armes d'acier, les Espagnols massacrèrent les gardes du corps de Montezuma, équipés de matraques de bois et de lames de pierre. L'invité de marque fit prisonnier son hôte. Cortés était désormais dans une situation des plus délicates. Certes, il avait capturé l'empereur, mais il était entouré de dizaines de milliers de guerriers ennemis furieux et de millions de civils hostiles sur un continent dont il ne savait quasiment rien. Il ne disposait que de quelques centaines d'hommes, et les renforts espagnols les plus proches étaient à Cuba, à plus de 1500 kilomètres. Cortés garda Montezuma prisonnier dans son palais, comme si l'empereur restait libre et en fonction, et que l'ambassadeur espagnol était simplement son hôte. L'Empire aztèque était un régime politique centralisé à l'extrême, et cette situation sans précédent le paralysa. Montezuma continua de faire comme s'il dirigeait l'Empire, et l'élite aztèque continua de lui obéir. Autrement dit, elle obéissait à Cortés. La situation dura plusieurs mois, au cours desquels Cortés interrogea Montezuma et son entourage, forma des traducteurs à toutes sortes de langues locales et dépêcha de petites expéditions espagnoles dans toutes les directions afin de se familiariser avec l'Empire aztèque et les multiples tribus, peuples et cités qu'il dirigeait. L'élite aztèque finit par se révolter contre Cortés et Montezuma. Ils élirent un nouvel empereur et chassèrent les Espagnols de Tenochtitlan. Mais l'édifice impérial se fissurait désormais de tous côtés. Fort des connaissances acquises, Cortés s'engouffra dans la brèche pour faire éclater l'Empire de l'intérieur. Il persuada nombre des peuples soumis de l'Empire de le rejoindre contre l'élite dirigeante aztèque. Les peuples en question firent une erreur de calcul. S'ils haïssaient les Aztèques, ils ne savaient rien de l'Espagne ni du génocide des Caraïbes. Ils imaginèrent pouvoir se libérer du joug aztèque avec l'aide des Espagnols. Jamais il ne leur vint à l'idée que ceux-ci prendraient le dessus. Pour eux, la chose était claire. Si Cortés et ses quelques centaines de suppôts causaient le moindre souci, ils les écraseraient sans mal. Les peuples rebelles apportèrent à Cortés une armée de dizaines de milliers d'hommes. Avec son aide, Cortés assiégea Tenochtitlan et prit la ville. À ce stade, soldats et colons espagnols étaient toujours plus nombreux à arriver au Mexique, les uns de Cuba, d'autres carrément d'Espagne. Quand la population locale comprit ce qui était en train de se passer, il était trop tard. Un siècle après le débarquement de Veracruz, la population indigène des Amériques avait diminué d'environ 90%, largement du fait de maladies inconnues arrivées en Amérique avec les envahisseurs. Les survivants se retrouvèrent sous la coupe d'un régime cupide et raciste, bien pire que celui des Aztèques. 10 ans après le débarquement de Cortés au Mexique, Pizarro arriva sur les côtes de l'Empire Inca. Il avait beaucoup moins de soldats que Cortés, 168 hommes pour toute son expédition. Mais Pizarro bénéficia des connaissances et de l'expérience acquise lors des précédentes invasions. Les Incas, en revanche, ne savaient rien du sort des Aztèques. Pizarro plagia Cortés. Se présentant en émissaire pacifique du roi d'Espagne, il invita le souverain Inca, Atahualpa, à un entretien diplomatique et le kidnappa. Puis, avec l'aide d'alliés locaux, il entreprit de conquérir l'empire paralysé. Si les peuples soumis de l'Empire Inca avaient su le destin des habitants du Mexique, ils n'auraient pas lié leur sort à celui des envahisseurs. Mais ils n'en savaient rien. Les peuples indigènes de l'Amérique ne furent pas les seuls à payer un lourd tribut à leur esprit de clocher. Les grands empires d'Asie, ottomans, safavides, moghols et chinois, surent très vite que les Européens avaient découvert quelque chose de géant. Mais ils manifestèrent peu d'intérêt pour ces découvertes. Ils continuèrent de croire que le monde tournait autour de l'Asie et ne firent aucun effort pour disputer aux Européens la domination de l'Amérique ou des nouvelles routes océaniques dans l'Atlantique ou le Pacifique. Même de chétifs royaumes européens comme l'Écosse et le Danemark dépêchèrent quelques expéditions d'exploration et de conquête vers l'Amérique. Mais jamais aucune expédition de ce genre ne partit du monde islamique, de l'Inde ou de la Chine. Le Japon fut la première puissance non européenne qui ait essayé d'envoyer une expédition militaire vers l'Amérique. Ce fut en juin 1942, quand une expédition japonaise s'empara des îles Kiska et Attu au large des côtes de l'Alaska et captura à l'occasion 10 soldats américains et un chien. Les Japonais n'approchèrent jamais plus près du continent. On ne saurait guère soutenir que les Ottomans ou les Chinois étaient trop loin, ni qu'ils manquaient des ressources techniques, économiques ou militaires nécessaires. Les ressources qui permirent à Zheng He d'aller en Afrique orientale dans les années 1420 eussent été suffisantes pour atteindre l'Amérique. C'est simplement que cela n'intéressait pas les Chinois. La première carte chinoise du monde à indiquer l'Amérique ne fut publiée qu'en 1602, et encore, par un missionnaire européen. 3 siècles durant, les Européens jouirent d'une domination incontestée en Amérique, en Océanie, ainsi que dans l'Atlantique et le Pacifique. Les seuls affrontements significatifs dans ces régions opposèrent les différentes puissances européennes. La richesse et les ressources accumulées par les Européens leur permirent d'envahir l'Asie, de vaincre ses empires et de se les partager. Quand les Ottomans, les Perses, les Indiens et les Chinois se réveillèrent, et commencèrent à faire attention, il était trop tard. C'est seulement au XXe siècle que les cultures non européennes adoptèrent une vision véritablement globale. C'est un des facteurs cruciaux qui menèrent à l'effondrement de l'hégémonie européenne. Au cours de la guerre d'Algérie, 1954-1962, la guérilla algérienne triompha ainsi d'une armée française dont l'avantage numérique, technique et économique était écrasant. Les Algériens l'emportèrent parce qu'ils pouvaient compter sur le soutien d'un réseau anticolonial mondial et qu'ils surent mobiliser les médias du monde au service de leur cause, mais aussi l'opinion publique en France. La défaite que le petit Vietnam du Nord infligea aux colosses américains repose sur une stratégie semblable. Ces guérillas montrèrent que les superpuissances elles-mêmes pouvaient être vaincues si une lutte locale devenait une cause mondiale. Il est intéressant de se demander ce qui aurait pu se passer si Montezuma avait pu manipuler l'opinion publique espagnole et trouver de l'aide auprès d'un rival de l'Espagne, le Portugal, la France ou l'Empire ottoman.